France Inter.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans le Grand Face à Face, l'émission de débat et d'idées de France Inter. À mes côtés, jusqu'à 13h, les duellistes Natacha Polony, journaliste éditorialiste, et Gilles Finkelstein, secrétaire général de la Fondation Jean Jaurès. Comme chaque samedi, ils reviendront sur trois sujets de l'actualité de la semaine, et en particulier aujourd'hui sur le défi qui attend notre Premier ministre Sébastien Lecornu, gagner la confiance de la majorité de l'Assemblée nationale. La confiance, elle est l'une des institutions invisibles, titre du dernier livre de notre invité, paru au Seuil l'an dernier, le dernier livre en date d'une œuvre dense qui n'a cessé d'interroger notre démocratie et ses failles. Historien, professeur émérite au Collège de France, Pierre Rosanvallon est aujourd'hui notre invité pour le débat, mais pour l'instant place au duel.
Le grand face à face, Thomas Negaroff sur France Inter.
Bonjour Natacha et Gilles.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver. On avance. Nous avons désormais un Premier ministre, mais toujours pas de gouvernement. Le fidèle, le loyal Sébastien Lecornu a donc été nommé à Matignon par Emmanuel Macron mardi soir, au lendemain du renversement du gouvernement Bayrou. Lors de la rapide, très rapide passation de pouvoir, le nouveau Premier ministre a esquissé un début de rupture.
Il va falloir aussi changer, être sûrement plus créatif, parfois plus technique, plus sérieux dans la manière de travailler avec nos oppositions, mais je le dis aussi, il va falloir des ruptures, et pas que sur la forme, et pas que dans la méthode, des ruptures aussi sur le fond.
Gilles, le Premier ministre fait en ce moment la tournée des partenaires sociaux et des forces politiques pour espérer gagner leur confiance. Alors, y a-t-il un chemin? Si oui, lequel? N'est-elle pas une impasse?
Lorsqu'on pose la question aux Français, très massivement, ils répondent que non. Moi, je dis peut-être. Comment on peut caractériser ce chemin? Si je le fais en un mot, je dirais c'est simple, au risque de vous surprendre, parce que l'objet et le périmètre sont clairs. L'objet, ce n'est pas de constituer une coalition, c'est pas un accord de gouvernement, c'est même pas de gagner la confiance de l'Assemblée, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un accord à minima, qui est un accord de non-censure, déjà sur le budget 2025. Et sur le périmètre, c'est les choses là aussi sont plus claires, c'est avec le Parti Socialiste et pas ou plus avec le Rassemblement National. Les termes sont accessibles au risque de vous surprendre, les termes d'un compromis, au risque de vous surprendre davantage encore. Quand on regarde le projet de budget de François Bayrou et celui présenté par le Parti Socialiste, alors ce que je veux dire, c'est un compromis avec moi-même, donc c'est un peu plus facile, mais il y a plusieurs objets de discussion. Quel est l'horizon du retour à 3%? Oui. 2029, dit François Bayrou. 2032, dit le Parti Socialiste. Allez, on peut dire 2030, option la plus ambitieuse du compromis compte tenu du contexte. Quel est le rythme de réduction des déficits? Si on fixe 2030, c'est une moyenne de 0,5 points par an. Bayrou avait dit 0,8. Le PS 0,4, là aussi soyons ambitieux, la note de la France vient d'être dégradée, disons 0,6. Et puis troisième sujet, quel est l'équilibre entre les recettes et les dépenses? Bayrou disait beaucoup d'économies de dépenses, le PS dit beaucoup de nouvelles recettes, on en fera un peu moins de dépenses, un peu plus de recettes. Et puis c'est simple enfin parce qu'il y a un intérêt partagé de tout ce spectre politique pour éviter le retour aux urnes. Si je dois dire maintenant en deux mots, je dirais c'est très compliqué. Parce que...
Ah, vous me perdez, c'est très simple ou c'est très compliqué?
C'est simple et très compliqué. Et c'est très compliqué, pourquoi? Parce que c'est très coûteux. Ah. Et c'est très coûteux pour les socialistes d'accepter un compromis avec une Macronie impopulaire et des républicains droitisés à quelques mois d'élection municipale. Et donc, pour qu'ils puissent accepter, il faut qu'il y ait des gains à la fois symboliques et concrets qui soient visibles. Et donc, pour la Macronie, la rupture que l'on vient d'entendre, elle ne doit pas être que dans les mots, mais il faut qu'elle soit aussi dans les choses. Et là, ça veut dire que par rapport au sujet, l'instauration de la taxe Zuckmann ou la suspension de la réforme des retraites qui sont mis en avant par le PS, c'est évidemment coûteux. Et c'est coûteux, enfin, et on les oublie trop, pour les Républicains, puisqu'il y a besoin qu'ils soient aussi à bord d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire qu'au moment où il penche vers le Rassemblement National, tomber vers le Parti Socialiste, c'est pas facile non plus. Je conclus. Je trouve que Sébastien Lecornu, on voit toutes les difficultés devant lesquelles il est. Il n'a pas si mal commencé, il y a une forme d'habileté et d'optimisme. On va y arriver. Ce chemin, c'est pas une belle autoroute, mais c'est une petite sente.
Une petite sente, mais enfin, si je vous ai écouté, le chemin est large, mais il est étroit. On croirait quasiment à une pensée confucéenne de la hauteur. Qu'en pensez-vous, Natacha? Est-ce que vous partagez à la fois l'optimisme et le pessimisme de Gilles? J'avoue que j'hésite entre les deux.
Disons que le Premier ministre a été nommé mardi et que donc il est bien de laisser la poussière retomber avant d'analyser, de commenter, ça, parce que ça permet de constater que l'impression est la même que le premier jour. À savoir que donner l'impression d'une rupture en nommant quelqu'un dont tous les Français savent que il est un des plus proches du président de la République et que le but de sa nomination est, de la part du président de la République, de ne rien lâcher de son pouvoir et de continuer à décider parce qu'il veut dessiner à minima son bilan. Il y a là quelque chose d'ambitieux.
Certaines mauvaises langues disent qu'il s'est nommé lui-même.
Oui, en tout cas, voilà, on a bien compris l'objet. Il s'agit, une fois de plus, de ne pas tenir compte de la demande qui naît de la part des Français, d'où qu'ils soient, où qu'ils se situent idéologiquement, à savoir une demande de changement, et de changement radical. Les études d'opinion montrent qu'une majorité de Français souhaitent une dissolution ou une démission du président de la République. Je ne crois pas que les Français soient fous et souhaitent le chaos. Je crois que ce n'est pas ça le message qu'ils envoient en disant qu'ils souhaitent. Cela signifie tout simplement qu'ils n'en peuvent plus d'un pouvoir qui n'écoute pas et qui donne l'impression de vouloir se maintenir coûte que coûte en utilisant tous les outils de la Ve République, quitte à détruire totalement l'équilibre des institutions. On a le lien social qui se délite, on a l'école qui se délite, on a le pacte démocratique qui se délite, on a l'économie qui se délite et rien ne bouge. Alors, on verra la difficulté suivante étant qu'on a tellement usé de personnel politique ces derniers temps en changeant de gouvernement à peu près tous les 6 mois que pour trouver des ministres qui vont pouvoir renouveler, là aussi ce sera très compliqué. D'ailleurs, le risque est que très largement on reprenne les mêmes. Donc le message politique est catastrophique. Derrière, l'analyse de Gilles est tout à fait juste. Les uns et les autres ont à la fois intérêt à faire tenir les choses et en même temps, comme il prévoit les municipales puis 2027, ils n'ont pas intérêt à s'abîmer dans ce qui apparaît de plus en plus comme le radeau de la Méduse. Donc l'équation politique est éminemment complexe. Le résultat pour la France et les Français est catastrophique.
Est-ce que Gilles, c'est la dernière cartouche du président Emmanuel Macron ?
La dernière cartouche, avant quoi ? Avant la dissolution.
Oui, je ne parle pas de démission, mais avant la dissolution.
Disons que je pense qu'on s'en rapproche. Je ne serai pas catégorique. Peut-être qu'il y a encore des options qui n'ont pas été essayées, mais au fur et à mesure, on s'en rapproche. Et c'est la raison pour laquelle, pour prolonger ce que disait Natacha, c'est pas qu'il ne tient pas compte de la demande de changement. Ce qui est fascinant quand on regarde les 3 premiers ministres qui ont été nommés depuis 2024, c'est que, alors même qu'il y a eu un désaveu dans les urnes aux élections européennes, puis à la dissolution, c'est que chaque premier ministre qui est nommé est plus proche d'Emmanuel Macron. Et on a commencé avec Michel Barnier, puis François Bayrou, puis Sébastien Lecornu. Et donc, évidemment, ça rend plus difficile cette rupture. Après, la preuve du pudding, c'est qu'on le mange, donc on va attendre d'avoir le pudding. Mais on n'est pas dans une alternance. De toute manière, on n'est pas dans une alternance, quelle que soit la personnalité du Premier ministre, parce que il n'y a pas de majorité. Dans la majorité, il y a aussi cette continuité de la Macronie. Je termine d'un mot. Vous dites, ce que disait Natacha, c'est ils ont à la fois les uns et les autres intérêt au compromis et pas intérêt au compromis. Ça veut dire que, en fait, ça peut marcher pour les raisons que j'évoquais, et ça peut ne pas marcher en dépit de ce que chacun souhaite. Et donc, l'hypothèse que ça s'accélère et que ce gouvernement ne tienne pas, après dissolution ou pas, ça sera l'étape d'après.
Résumé, On verra.
France Inter, le grand face-à-face, le duel.
L'Europe se bat. Elle se bat pour un continent intègre et en paix, pour une Europe libre et indépendante. Elle se bat pour défendre nos valeurs et nos démocraties. Elle se bat pour notre liberté et pour notre capacité à décider nous-mêmes de notre propre destin.
Natacha, votre meilleure amie Ursula von der Leyen a prononcé dans une relative indifférence médiatique ici en France au moins son discours annuel sur l'état de l'Union européenne. La présidente de la Commission européenne a réaffirmé, on l'a entendu, son attachement à la souveraineté européenne dans un contexte tendu puisque quelques heures seulement avant son discours, des drones russes ont été abattus dans le ciel polonais. Qu'avez-vous retenu, vous, de ce discours offensif ? Un changement de ton ?
Je dirais qu'il y a Emmanuel Macron à l'Élysée et il y a Ursula von der Leyen à Bruxelles.
Ça,
nous venons
juste.
Parler de l'un, nous factuel, allons là. Parler de l'autre. Je pense que les problèmes sont à peu près les mêmes. À savoir que ce discours qui en effet appelait au combat, à l'unité, qui parlait de souveraineté, était d'un vide absolu, mais absolu, et qu'il y a un moment où les dirigeants européens vont devoir cesser d'abîmer les mots. C'est d'autant plus important de cesser cette dégradation de la parole publique que 60% des citoyens des pays de l'Union européenne souhaitent la démission de Ursula von der Leyen. On voit qu'on a, c'est pour ça que j'évoquais la figure d'Emmanuel Macron, il y a finalement quelques éléments. Pour revenir sur le contenu de ce discours, pourquoi suis-je sévère vis-à-vis de ce discours. Il y a eu quelques éléments qui étaient nouveaux, intéressants, notamment sur la question d'Israël, oui. Différentes déclarations qui étaient importantes, qui modifient les rapports de force. Pour le reste, des poncifs sur la nécessité...
Juste Israël, elle a proposé une suspension partielle de l'accord d'association. Exactement. Entre l'UE et Israël sur les questions liées au commerce.
Voilà. Ce qui n'est pas encore fait, puisqu'on oui. continue à avoir des États, dont l'Allemagne en premier lieu, qui refusent absolument oui. ce genre de choses. Pour le reste, appeler à la nécessité d'être fort, à une économie de guerre permanente, ça revient à se payer de mots, parce que l'Europe n'est pas en économie de guerre et n'a visiblement pas l'intention de l'être, et Ursula von der Leyen en est la première responsable, puisque la séquence en Écosse cet été a démontré que non seulement nous n'allions pas développer notre industrie de défense, mais que nous allions la tuer un petit peu plus en continuant à acheter américain et à nous soumettre à la volonté d'un allié qui est désormais prêt à nous écraser. Derrière, les emphases sur la compétitivité, sur l'indépendance énergétique, c'est rigoureusement la même chose, dans la mesure où rien n'est fait concrètement de la part de la Commission européenne pour permettre une véritable indépendance énergétique européenne. Et on voit bien que sur la question du nucléaire, notamment, les rapports de force entre la France et l'Allemagne se perpétuent, l'Allemagne n'ayant toujours pas l'intention de permettre à la France de développer sa filière nucléaire comme il le faudrait. Sur la compétitivité, on voit bien qu'on continue l'inflation des normes. Bref, et je termine sur un point. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'Ursula von der Leyen essaye en tout point d'empiéter, d'augmenter ses prérogatives sans respect des traités. Et c'est là où ça devient éminemment problématique. Je ne sais pas si j'ai le temps là de développer ce qui est en train de se passer sur le marché unique de la défense. Pardon, mais c'est extrêmement grave parce qu'une des rares industries qui reste en France, c'est l'industrie de la défense. Elle est d'autant plus importante qu'en effet, nous avons des attaques de plus en plus dangereuses de la Russie. Et ce qui est en train de se passer risque de nous interdire de développer notre industrie en dehors de la dépendance totale aux États-Unis.
Gilles, l'Europe défendra chaque centimètre carré de son territoire, a notamment déclaré Ursula von der Leyen, des moyens stratégiques indépendants. C'est quand même un changement de ton, en tout cas, ça a été analysé comme ça. Est-ce que ce ne sont, comme le dit Natacha, que des mots vidés de substance et qui même sont dangereux pour l'indépendance réelle de l'Europe ?
Bon, c'est intéressant de lire ce discours. C'est un long discours qui est pour faire une image, c'est entre la déclaration de politique générale d'un Premier ministre en France et le discours sur les, le discours annuel sur l'état de l'Union d'un président américain. Je trouve l'impression générale, la première phrase, on l'a entendue, première phrase du discours, c'est « l'Europe se bat ». L'impression, c'est Ursula von der Leyen se débat. C'est un discours que j'ai trouvé défensif d'une présidente qui est contestée et pour ses choix et pour sa méthode. Dans le détail, il y a des choses qui n'ont pas été relevées. Deux choses qui concernent la vie quotidienne que j'ai trouvées intéressante. La première est sur le logement, qui est une compétence nationale et même souvent une compétence locale, mais on voit que c'est une crise européenne. Et la présidente de la Commission a avancé ces chiffres que je ne connaissais pas. En 10 ans, les prix en Europe ont augmenté de 20% et le nombre de permis de construire a diminué de 20%. Et on voit donc que c'est pas une crise française, que c'est une crise européenne. Et pour la première fois, il y a l'ambition de se saisir de ce sujet-là En révisant les règles en matière d'aide d'État. Donc on voit que les choses sont en train de bouger. Deuxième chose très concrète sur l'automobile, qui est un secteur en crise, qui est un secteur en danger face au défi de la transition électrique et au retard accumulé par rapport à la Chine. L'Union européenne avait fixé un cap interdiction des voitures thermiques en 2035. Il y a une phrase énigmatique d'Ursula von der Leyen dans ce discours. Elle dit... On va réexaminer en nous fondant, je cite, sur le principe de neutralité technologique. Principe de neutralité technologique, si on tire le fil, ça veut dire que on fixe des objectifs de réduction, mais on fixe pas
les moyens.
Les moyens.
Donc, oui, les moyens technologiques.
Voilà. Et donc, on va voir ce que ça veut dire. Après, sur les éléments plus structurants et rapidement, l'Ukraine, c'est quand même symptomatique que le discours commence et commence longuement sur l'Ukraine, avec un rappel salutaire sur la situation des enfants ukrainiens qui ont été enlevés, et avec une lucidité sur la menace russe que Natacha évoquait, qui est au lendemain, évidemment, de la provocation de la violation de l'espace aérien en Pologne. Cette lucidité est celle de l'Europe. Il y a un sondage qui est sorti hier qui montre que cette lucidité est aussi celle des Français. Sondage IFOP. Vous avez 75% des Français qui disent « La Russie est une menace pour la souveraineté des États membres. En cas de cessez-le-feu, nous ne faisons pas confiance. » 79% à Vladimir Poutine pour le respecter. Et 75%, il faut des garanties de sécurité fortes à l'Ukraine. Donc, il y a cette lucidité. Puis derrière, il y a des propositions. Je termine par les États-Unis après l'Ukraine. Et symboliquement, elle ne commence pas par les États-Unis, mais elle met bien longtemps comme l'éléphant dans la pièce avant d'aborder...
C'est ce qu'on lui reproche le plus, c'est l'accord commercial avec Trump.
Tardivement, la question de l'accord commercial... de manière très défensive face à un Parlement européen qu'elle sait très critique, avec les mêmes arguments, c'était le meilleur accord possible.
Ça aurait été
dans
un chaos.
Le contexte géopolitique, ça serait une catastrophe. On a un début de second mandat d'Ursula von der Leyen et de cette commission qui est quand même très décevant. Décevant de la part de la présidente, mais de la part de la commission qui est très lente à mettre, trop lente à mettre en œuvre les conclusions du rapport Draghi.
Un mot, Natacha. Le rapport Draghi sur l'investissement.
Très, très bonne transition. J'allais dire que si les différents élus au Parlement européen avaient été cohérents, notamment les élus français, ils auraient demandé une censure d'Ursula von der Leyen pour n'avoir pas commencé le début de la mise en œuvre du rapport Draghi. Rien.
11%, ça, 11% des recommandations selon un think tank européen ont été mises en œuvre. Et d'une phrase, ce qui est fascinant dans ce discours, elle fixe comme horizon pour présenter un plan 2028.
Non mais, et 2028 est aussi l'horizon d'ailleurs pour éventuellement commencer à réagir face à la déferlante des petits colis chinois qui vont détruire totalement le tissu commercial européen après avoir détruit le tissu industriel. Juste un point, en revanche, il y a des choses sur lesquelles Ursula von der Leyen continue à essayer d'avancer. Par exemple, le passage à la majorité qualifiée pour la politique étrangère, ce qui, dans l'état actuel des choses, serait absolument calamiteux parce que ça empêcherait la France de faire valoir une vision qui, dans l'état du monde, les rapports entre les États-Unis et la Russie seraient importants. Je termine par un chiffre pour dire aussi quel est le bilan. En 2024, il y a eu 4,2 millions de brevets déposés dans le monde. 1,5 million de la part de la Chine. 180 000 de la part de l'Europe. 14 000 de la part de la France. Donc, la France décroche en Europe, l'Europe décroche dans le monde, dans tous les domaines. Ça s'appelle un bilan.
France Inter, le grand face-à-face, le duel.
Les personnes diaboliques responsables de l'assassinat de mon mari n'ont aucune idée de ce qu'ils ont fait. Ils ont tué Charlie parce qu'il prêchait un message de patriotisme, de foi et d'amour miséricordieux du Seigneur. Ils doivent tous savoir ceci. Si vous pensiez que la mission de mon mari était puissante auparavant, vous n'avez aucune idée. Vous n'avez aucune idée de ce que vous venez de déclencher au travers de tout le pays et de ce monde. Vous n'avez aucune idée. Vous n'avez aucune idée du feu que vous avez allumé chez sa femme. Les pleurs de cette veuve vont résonner dans le monde comme un cri de guerre.
Erika Kirk, la veuve de Charlie Kirk, c'était hier soir aux États-Unis sa première prise de parole après l'assassinat de son mari, l'influenceur ultra-conservateur Icon MAGA, tombé sous les balles de Tyler Robinson, un jeune homme ayant grandi dans une famille conservatrice de la classe moyenne blanche de l'Utah, loin de la figure fantasmée de l'extrême-gauche radicale. Beaucoup d'émotions, mais aussi des mots vengeurs et menaçants, on les a entendus, qui font écho à ceux de Donald Trump, même si le président américain a appelé à éviter la violence. Alors, Gilles, de quoi la mort de Charlie Kirk est-elle le nom aux États-Unis, mais aussi en Europe, où elle a été énormément commentée, notamment à l'extrême droite, et dont on parlera beaucoup, j'imagine, à Londres, où s'élance une grande manifestation en faveur de la liberté d'expression et contre la submersion migratoire.
Bon, d'abord, une remarque de principe et d'évidence, mais la violence politique, sous quelque forme que ce soit, est contraire à l'esprit même de la démocratie. Et Bernie Sanders a eu des mots qui étaient absolument parfaits sur ce sujet-là. Deuxième remarque sur le contexte, on a une remontée spectaculaire de la violence politique aux États-Unis. On a certes, c'est une tradition qui est une tradition ancienne, mais il y a une remontée à la fois de la légitimité de la violence politique. C'est impressionnant de voir le pourcentage d'Américains considérant que on peut user de démocrates, considérant qu'on peut user de la force pour destituer Donald Trump ou symétriquement, et multiplication des usages de la violence politique, beaucoup d'ailleurs contre les démocrates. Après, de quoi Charlie Kirk est-il le nom et de quoi cet assassinat est-il porteur ? Charlie Kirk, c'est d'abord un nouveau système de communication. Et ça, c'est très intéressant, y compris pour nous, Européens, et pour nous, Français, à analyser. Et j'insiste sur ce mot de système. C'est-à-dire que lui était, par ses podcasts, par les débats qu'il organisait, était suivi par 20 millions de personnes. Et tout ça a été amplifié par les réseaux sociaux et par leurs algorithmes, repris par les chaînes d'information continues conservatrices. Et on avait une boucle d'amplification et on voit des choses qui sont quand même maintenant assez proches en France. Deuxièmement, il était symptomatique de la caricature des dérives du Parti républicain et du Parti républicain trumpisé. Le discours, on a vu ça, le discours anti-vax, élections volées, anti-avortement, contre le travail des femmes, raciste. Il y a homophobe, le discours violent, il cochait, c'est-à-dire à peu près toutes les cases. Et enfin, c'est très intéressant aussi, ça renvoie aux questions sur la démocratie, détenteur d'un pouvoir réel. Il n'avait pas de légitimité électorale, mais il avait de l'influence politique avec son mouvement Turning Point et ses 850 antennes locales, et un pouvoir politique dans son rôle auprès de Donald Trump. On dit qu'il a joué un rôle important pour le choix de J.D. Vance. Un rôle même auprès des élus républicains pour la confirmation notamment du secrétaire d'État à la Défense, en les menaçant sinon d'organiser des primaires contre eux. Donc, il y avait tout ça. Je termine par de quoi son assassinat est porteur. Turning Point, c'est le nom de du mouvement qu'il a lancé. Donc, c'est un tournant. Est-ce que ce genre d'événement, c'est un coup d'arrêt ou est-ce que c'est un accélérateur de violence ? Et tout semble indiquer qu'on est sur l'accélération. Les réactions des républicains sont absolument folles. Dans ce genre de situation, normalement, on appelle à la justice. Là, on a appelé à la vengeance. Et pas à la vengeance seulement contre le meurtrier, à la vengeance contre les médias, contre les démocrates. Et demain, ça risque d'être la vengeance contre la démocratie elle-même. Et je trouve que tout ça accentue la pente glissante dans laquelle sont engagés les Américains.
Oui, on avait choisi de diffuser les propos de la veuve de Charlie Kirk, les propos de Donald Trump dans la foulée, étaient effectivement des propos étonnants de la part d'un président, le président étant soi-disant et quasiment officiellement celui qui garantit l'unité de la nation. C'est un discours vengeur très clair qui ciblait de manière assez imprécise ceux qui auraient armé le bras du tueur, dont il ne savait rien à l'époque d'ailleurs. Natacha.
Oui, pour prolonger, premier point, en effet, il y a eu ces derniers temps une accélération de cette émergence de violence politique, souvent d'ailleurs contre des élus démocrates. Et quand on regarde qui sont les auteurs aux États-Unis de violence politique, c'est beaucoup plus souvent des représentants de tous les mouvements suprémacistes. Donc en fait, la violence est en train de monter, mais elle n'est pas simplement, même si les deux exemples qui ressortent là sont Charlie Kirk et avant cela, l'assassinat du PDG de United Healthcare par Luigi Mangione, ça a fait parler parce que ça a fait réagir justement les mouvements MAGA autour de Donald Trump. Mais en fait, c'est plutôt dans l'autre sens que
oui,
ça se passe.
Oui, on peut citer Melissa Hortman, habituellement. Élu démocrate du Minnesota qui a été assassiné.
Les questions qui se posent, c'est qu'est-ce qui rend possible la violence politique et est-ce que ce qui se passe aux États-Unis est purement américain ? Il y a différents éléments. D'abord, ce qui est frappant, c'est que l'idée d'affrontement existentiel, évidemment, légitime la violence politique. Or, c'est ce que nous voyons, et ce n'est pas seulement le fait de la scène politique américaine, ça existe de plus en plus en Europe. Ensuite, c'est l'idée qu'il y a... Alors ça, c'est plus européen, puisque aux États-Unis, il y a un débouché politique, on le voit. Le problème, c'est que ce débouché politique amplifie le phénomène.
Et il est au pouvoir.
Et ouais. Si on se reporte à la scène européenne et en particulier française, là, c'est plutôt l'absence de débouchés politiques qui a tendance à amplifier la violence. Ensuite, évidemment, le passage à l'acte aux États-Unis est favorisé par la libre circulation des armes. Nous n'avons pas cela, et tant mieux, parce que, évidemment, la violence est immédiatement beaucoup plus active. Mais il y a, dans cet affrontement existentiel, la mise aussi sur le même plan de la violence symbolique et de la violence physique, qui est un élément extrêmement dangereux qu'on voit apparaître de plus en plus dans les discours politiques, et ça se voit également dans les débats politiques français.
Et qu'est-ce que vous voulez dire par là ? C'est quoi la violence symbolique ici ?
Il y a alors là, pour le coup, c'est plus le fait de courants d'extrême gauche en France qui ont tendance à expliquer que
la domination,
la violence symbolique, est une violence au même titre que la violence physique. Et on a pu voir, j'ai en tête par exemple les discours de Geoffroy de Laganerie après le Bataclan, sur le fait que, si je cite bien ces termes, les terroristes, les djihadistes avaient mis avaient apporté une réponse djihadiste à une violence qu'ils subissaient depuis déjà très longtemps. Ce qui est une équivalence absolument ahurissante.
De l'autre côté, dénoncer le virus wokiste,
exactement,
c'est aussi dénoncer une violence. Il n'y a pas que l'extrême gauche.
Non, je n'ai pas dit qu'il y avait l'extrême gauche. Je dis qu'il y a deux côtés une espèce d'accélération. Et quand je parle de l'affrontement existentiel, on est véritablement là-dedans. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce qui est en train de se passer aux États-Unis peut arriver chez nous, d'autant plus que les réseaux sociaux ont formé une scène mondiale dans laquelle notre vision de la chose publique est éradiquée. Et c'est pour ça que la manifestation à Londres est très importante, parce que il va falloir, à un moment donné, prendre en main ce débat sur la liberté. Les réseaux sociaux fonctionnent sur deux éléments, le free speech et le communautarisme, qui relèvent de la culture politique américaine et qui sont plaqués sur la vie démocratique européenne qui fonctionnait sur d'autres éléments. Et l'idée de venir se réclamer de la liberté d'expression, ce qui est caractéristique chez Kirk et qui est caractéristique du discours qu'on voit par exemple chez Éric Zemmour ou d'autres, c'est une façon de tordre la notion de liberté, et il va falloir à un moment donné penser la liberté de manière démocratique.
Éric Zemmour, qui sera d'ailleurs présent à Londres, où il est prévu qu'il prononce un discours lors de cette grande manifestation d'extrême droite britannique contre la submersion migratoire et pour la liberté d'expression. La liberté, l'égalité, la démocratie, voilà des thèmes que nourrit la pensée de notre invité Pierre Rosanvallon, qui nous a rejoint pour le débat du Grand Face-à-Face.
Le Grand Face-à-Face, le débat.
Bonjour Pierre Rosanvallon.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sociologue, historien, professeur émérite au Collège de France et l'un des grands, sinon le grand spécialiste de la démocratie française que vous auscultez sous toutes les coutures, puis-je dire, depuis des décennies. Dans votre dernier livre, publié l'an dernier au Seuil, vous étiez intéressé aux institutions invisibles. Je les cite, l'autorité, la légitimité, la confiance. Et en effet, notre démocratie paraît souffrir d'une faillite de ce que vous appelez les institutions invisibles. On vous reçoit à l'issue d'une semaine qui aura été marquée par un blocage politique en France avec le renversement du gouvernement Bayrou, puis un blocage social avec le mouvement du 10 septembre. Et d'ailleurs, il y a en ce moment, à l'heure où l'on se parle, des mouvements, d'ailleurs sporadiques, de Blocontou qui continuent d'exister dans notre pays, en attendant les grèves qu'on annonce massives jeudi prochain. Est-ce que tout cela dessine une démocratie bloquée? On va en discuter avec vous, mais j'ai tout de même envie de vous entendre sur le dernier thème du duel, parce que ça touche la démocratie américaine, mais ça touche peut-être aussi la nôtre, le débat autour de la mort de Charlie Kirk, autour de la question de la violence de l'extrême gauche, mais aussi de l'extrême droite. Est-ce que vous craignez une importation de cela en France? Est-ce que c'est déjà chez nous?
Ce que nous constatons, en tout cas, c'est une chose évidente, c'est la fragilité des démocraties. Nous pouvions tous penser, il y a quelques années, que s'il y avait un pays qui était l'exemple même de la démocratie stable et durable, c'était les États-Unis. Et ce qui pouvait apparaître comme le cœur de l'histoire s'avère actuellement le lieu du déraillement de la démocratie. On peut vraiment parler d'un déraillement de la démocratie aux États-Unis. Un déraillement, pourquoi? Parce qu'il y a d'abord, de la part du président Trump, une brutalisation permanente des institutions. On voit bien que le problème n'est pas simplement d'être contre les institutions, mais c'est en permanence de forcer les choses, d'aller à la limite, d'aller au bord. Et ça, c'est une stratégie permanente de Trump, cette brutalisation des institutions. Et puis, ce que nous voyons en deuxième lieu, c'est que les États-Unis n'acceptent plus l'idée qu'il y a un camp démocratique dans le monde. Les États-Unis disent aujourd'hui, c'est le point de vue de Trump, au fond, il devient un spectateur. On le voit, il est devenu un spectateur lorsqu'il y a eu les attaques israéliennes au Qatar. Il est devenu un spectateur lorsqu'il y a eu les drones qui sont venus survoler Varsovie. Donc, il y a ce deuxième élément du déraillement. Les États-Unis, aujourd'hui, montrent la fragilité des démocraties. Et ce qui se passe avec l'assassinat qui vient d'avoir lieu, et surtout le désir de revanche qui est exprimé, eh bien c'est tout simplement, je dirais, des formes d'appel à la guerre civile. Il y a une entrée dans une guerre civile larvée aux États-Unis. Alors il faut regarder les chiffres. Ce matin, Libération publiait une enquête américaine rappelant que 93% des meurtres politiques étaient des meurtres extrémistes de droite, d'extrême droite, et notamment de suprémacistes blancs, pour environ 60%. Donc, il y a toute une partie de l'Amérique qui veut aujourd'hui en découdre. Et qui veut en découdre sérieusement. Donc là, c'est une chose qui est à nos portes, si je puis dire, à nos portes et près de nos cœurs, puisque l'idéal démocratique lié au nom de l'Amérique est en train aujourd'hui de montrer son affaissement, son début d'affaissement en tout cas.
L'idéal démocratique, nourri par l'histoire américaine, c'est aussi un équilibre entre la liberté et l'égalité. Est-ce que vous avez sentiment aujourd'hui qu'il y a une tension entre ces deux valeurs, entre ces deux principes qui ont fondé aussi notre démocratie chez nous?
Je dirais qu'il y a dans la démocratie une tension entre deux éléments. Le premier élément historique, c'est ce qu'on appelait au XIXe siècle la tension entre l'urne et le fusil. Dans une société, il y a toujours des débats. Et ben, les débats, historiquement, ils s'étaient réglés dans la violence ou ils se règlent dans l'urne. Eh bien, il faut assurer qu'ils continuent bien à se régler dans l'urne. Et aux États-Unis, on voit que ça, c'est le fusil qui ressurgit. Et le deuxième point, effectivement, c'est ce rapport entre la liberté et l'égalité qui est le cœur de l'équation démocratique. Mais ce qu'on voit aux États-Unis, et c'est là aussi qu'ils sont intéressants à observer, c'est que le trumpiste marie en quelque sorte le culte le plus brutal des inégalités avec une certaine conception à lui de l'égalité. Ça montre bien qu'aujourd'hui, nos sociétés ne sont plus simplement définies par ce qui les a caractérisé pendant tout le 19e et le 20e siècle, à savoir le conflit de classe classique. Les sociétés, c'était le conflit entre les possédants et les autres. C'était le conflit entre les salaires et les profits. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a d'autres éléments concernant les relations sociales. Ça n'est pas simplement les conditions sociales, mais les relations sociales. Aujourd'hui, on n'est pas simplement sensible à une statistique sur les inégalités, mais à un sentiment de discrimination, au fait qu'on se trouve non respecté, au fait qu'on voit qu'on n'est pas écouté, qu'on est méprisé, qu'on n'a pas de dignité qui est reconnue. Donc je crois qu'il y a tout un ensemble de nouveaux facteurs qui déterminent à la fois la sensibilité dans les démocraties et en même temps les conditions d'expression de celles-ci.
Et est-ce qu'il y a, pour le coup, un hiatus entre la représentation politique, le débouché politique de notre société et ces nouvelles grilles de lecture ? En vous écoutant, je pensais au travail de la Fondation Jean Jaurès sur le ressenti, l'importance du ressenti. Est-ce qu'il y a un décalage, un hiatus, qui expliquerait aujourd'hui les blocages dans lesquels nous nous trouvons aujourd'hui avec un personnel politique qui aurait des grilles de lecture peut-être du passé et une société qui, elle, bouillonnerait d'autres grilles de lecture telles que celles que vous venez d'évoquer ?
C'est tout à fait dans cette direction-là qu'il faut réfléchir cette question. Dans cette direction-là, en rappelant aussi qu'il y a deux dimensions et deux éléments dans cette question. Un premier élément, c'est la démocratie des partis. Parce que la démocratie des partis, c'est elle qui a longtemps organisé, je dirais, la représentation de la diversité sociale. Mmh. Chaque parti, les indépendants représentaient les professions libérales, les socialistes représentaient les instituteurs, tout un monde de la fonction publique, les communistes, les ouvriers, etc. Donc, il y a un problème de la démocratie des partis, et peut-être que nous pourrons y revenir, parce que je crois que c'est une question essentielle aujourd'hui. Mais justement, le problème n'est que les partis ne représentent déjà plus ces groupes sociaux. Ça, c'est déjà un premier constat. Et deuxièmement, c'est que ce qui est à représenter, ça n'est pas simplement justement ces conditions, mais ce qui est à représenter, c'est la place que chacun pense qu'il est à laquelle il pense être assigné dans la société. Donc c'est la place de chacun, la reconnaissance, le mot de reconnaissance est essentiel, et non pas simplement, je dirais, la condition économique. Bien sûr que la condition économique, elle est ultra présente. Quand on fait des sondages, on voit bien que les questions de pouvoir d'achat, de niveau des retraites, elles sont toujours au premier plan. Mais ce qui motive au cœur les individus, c'est justement quelle est la place qui est reconnue à chacun dans la société ? Comment on est considéré ? Comment on est écouté ? Je crois que ça, au fond, ça a été historiquement aussi une des premières conquêtes de la démocratie. Une des premières conquêtes de la démocratie, c'est de dire que toutes les voix, même les plus humbles, avaient leur place. Qu'on n'était plus dans une société d'ordre, où il y avait des gens du haut et des gens du bas. Mais nous sommes dans une société où, quelle que soit la situation de chacun, il doit être compris comme quelqu'un d'important.
Natacha.
Justement, ce que vous dites est important, mais j'ai une question. Je m'interroge sur un terme. Vous dites, ce qui compte, c'est la reconnaissance. Est-ce que c'est véritablement la reconnaissance ou est-ce que c'est la souveraineté ? C'est-à-dire l'idée que les citoyens vont collectivement décider souverainement de leur destin, ce qui n'est pas exactement la même chose. Et est-ce que finalement, quand vous évoquez dans les institutions invisibles la confiance, la question, est-ce qu'elle n'est pas, non pas de l'absence de confiance de la part des citoyens vis-à-vis des gouvernants, mais bien la façon dont les gouvernants n'ont pas eu confiance en les citoyens et contournent de toutes les manières possibles, l'expression de leur volonté souveraine.
Pierre Rosanvallon.
Oui, vous avez raison d'employer le mot souveraineté, parce qu'il y a effectivement deux dimensions dans la démocratie. La démocratie, c'est que ce qui rend chacun important. Donc la démocratie se définit par rapport à la place des individus. Mais la démocratie se définit aussi par la définition et l'expression du collectif. Mmh. La démocratie, c'est à la fois l'individu important et le peuple souverain. Ce sont les deux dimensions. Mais cette dimension du peuple souverain, c'est là que les questions institutionnelles arrivent très, oui, très rapidement. Et c'est là que le débat sur la démocratie des partis et sa réforme mérite d'être posé fortement.
Ou des formes aussi de démocratie directe, de référendum. On est vraiment au cœur aussi de cette question-là.
Alors, on est au cœur de cette question-là en rappelant une chose très importante. C'est que la démocratie, c'est l'organisation, je dirais, de la volonté générale. Mais la démocratie, c'est aussi tout un ensemble d'autres objectifs. La démocratie n'est pas simplement le vote. La démocratie, c'est aussi la représentation. C'est-à-dire que les réalités vécues soient mises sur la table. Il y a une phrase qui m'a frappé chez les manifestants de cette semaine. Quelqu'un disait « Ceux qui nous gouvernent ne connaissent rien à nos vies ». Eh bien, c'est que la société soit représentée. Et puis, c'est aussi qu'on ait un œil sur les pouvoirs. C'est un grand philosophe anglais qui disait « La démocratie, c'est pas simplement la voix du peuple, c'est aussi l'œil du peuple ». Donc, il y a ce besoin, et puis enfin, un besoin de délibération, de discussion. Que des arguments soient avancés, que chacun puisse trouver sa place dans cette démocratie de la délibération.
La voix du peuple, l'œil du peuple et l'oreille du peuple. On va écouter un manifestant, c'était mercredi, lors du mouvement Bloquons tout, il a employé un des mots, une des institutions invisibles, la confiance. J'aimerais qu'on y revienne ensemble.
Le président a plusieurs fois promis de changer de cap, changer de politique, d'écouter la parole des citoyens, que ce soit à travers l'Assemblée citoyenne pour le climat, que ce soit en lisant et en tenant compte des cahiers de doléances écrits par plus de 200 000 personnes au moment des Gilets jaunes. On a malheureusement le constat, après plusieurs années, que rien n'évolue et donc ce serait pour nous une très mauvaise idée de continuer à faire confiance aux mêmes personnes qui appliquent les mêmes recettes et qui aboutissent toujours aux mêmes résultats.
On est très précisément dans ce que vous nous racontez, cette déconnexion, le sentiment de ne pas être entendu. Et quand on n'est pas entendu, et là c'est votre travail, on ne peut pas accorder sa confiance.
Oui, la confiance c'est très simple. La confiance c'est l'hypothèse que l'on peut faire sur le comportement futur de quelqu'un. Et on peut se projeter avec quelqu'un si on a des indices dans le passé qui permettent de penser que ça va correspondre à quelque chose. Et donc la confiance, ça se construit lentement et ça se détruit aussi au fur et à mesure quand les paroles, à chaque fois, ne tiennent pas compte des engagements.
La confiance n'est jamais ni aveugle ni amnésique. Gilles.
Alors, je voudrais vous interroger non pas sur la confiance, mais je voudrais rebondir sur ce que vous avez évoqué sur la représentation et cette volonté de voir ces vies représentées du mouvement Bloquons tout, parce qu'il y a eu une autre dimension qui m'a frappé et qui, au moins sur ce point, faisait le parallèle avec le mouvement des Gilets jaunes, c'est que c'est à nouveau un mouvement social qui refuse sa propre représentation, de se donner une représentation et avec quand même sous-jacente l'idée que par nature, toute représentation est une trahison. Oui. Comment vous lisez ça ?
C'est-à-dire que je précise, y compris toute représentation médiatique, parce que les journalistes ont été exclus. Donc c'est représentation politique et médiatique. On ne peut pas être représenté par quiconque à part nous-mêmes. Allez-y, Pierre Rosenblatt.
C'est-à-dire dans le mot de représentation, il y a deux définitions. Le terme de représentation peut avoir une définition instrumentale. Avoir un représentant, c'est quelqu'un qui parle pour vous, qui s'exprime pour vous, qui est votre traducteur. Mais comme souvent on dit « traduttore, traditore ». C'est-à-dire que le traducteur, c'est aussi celui qui peut vous trahir. Donc je comprends tout à fait qu'il y ait ce rejet, d'une certaine façon, de la représentation, je dirais, qui finalement peut être confiscation. On prend la parole des autres. Mais il faut garder cette idée que la représentation, c'est garder, rester, laisser vivante les problèmes vécus par les gens. Donc ça, c'est une représentation qui est plus, je dirais, de produire de l'image, de produire de la description. Et cette représentation, ça n'est pas évidemment forcément un parti, un journaliste, c'est aussi par exemple un cinéaste, c'est aussi un romancier, et je crois que ce type de représentation, il faut lui accorder de plus en plus d'importance. Parce que c'est une représentation sensible, c'est une représentation qui, à la fois, peut parler de réalité collective et de problèmes individuels. Donc cela montre bien que au point où nous en sommes de, je dirais, de ce qu'on appelle communément, mais c'est bien vrai, une sorte de d'affadissement des démocraties, voire de crise des démocraties. Eh bien, qu'il faut trouver les moyens de faire vivre ces fonctions, comme la représentation, en dehors des partis. Parce que les partis, ils sont tellement pris dans leur jeu électoraux, puisque c'est bien leur fonction première, c'est leur fonction première et normale en démocratie, c'est qu'ils sélectionnent des candidats pour les élections. Mais pour faire ça, ils doivent passer des alliances. Et comme ils doivent passer des alliances avec d'autres, eh bien, ils mesurent tout ce qu'ils ont à dire, ils sont prudents, et on peut dire que la nécessité de passer des alliances finit par amoindrir votre force et votre authenticité. Donc, il faut bien qu'il y ait réorganiser la démocratie des partis, si on pourra en parler, ça me paraît une nécessité évidente. Et, par exemple, un changement de scrutin permettrait justement, en passant par moins d'alliances obligatoires, qu'il y ait une expression plus authentique de chaque parti, et non pas que chaque parti soit l'addition des prudences, des craintes vis-à-vis d'alliances qu'il ferait avec des autres. Mais l'essentiel de la représentation, dans la période qui vient pour nos sociétés, c'est bien de faire vivre cette représentation des réalités comme mise au présent, mise à jour de ce qui est, d'un certain point de vue, caché, invisible, qu'on ne raconte pas assez. C'est pour cela qu'il y a quelques années, j'avais lancé ce projet Raconter la vie, parce qu'effectivement, il y a tout un ensemble de réalités qui ne sont pas suffisamment racontées. Et l'effort démocratique, de ce point de vue-là, c'est pas simplement un effort de changement des partis, c'est un effort de nous tous, citoyens, de la société civile, pour faire vivre ces différents types de fonctions.
Natacha.
Il y a un acteur dans votre description de tous les mécanismes de la démocratie qui n'apparaît pas, enfin pour l'instant là dans ce que vous avez dit, et qui me semble absolument essentiel parce qu'il rebat les cartes, ce sont les réseaux sociaux. Ne serait-ce que parce que même les partis politiques en sous-main s'enorgueillissent d'avoir des armées de trolls, de bots qui vont influencer, lancer des attaques, etc. C'est-à-dire que le débat démocratique est totalement soumis au fonctionnement des algorithmes et à la capacité de les manipuler. Et c'est vrai à l'échelle d'un pays, c'est vrai à une échelle bien plus vaste. On a en France l'habitude de parler des ingérences russes, mais en fait, tous les pays pratiquent des ingérences par les réseaux sociaux de la façon la plus violente qui soit, enfin, et les États-Unis sont quand même champions du monde en la matière. Et derrière...
Plus ou moins quand même.
Si.
Non mais plus ou moins violemment et pas avec les mêmes objectifs.
Ah non mais les mêmes objectifs, je suis d'accord avec vous et j'ai aucune sympathie. Simplement dans la manière de manipuler le débat démocratique, il y a quelque chose de fondamental. Et c'est d'ailleurs ce qui a fait la force de Donald Trump. Vous disiez tout à l'heure qu'il est spectateur. Je n'ai pas l'impression qu'il soit spectateur. Je pense qu'il est à la fois un grand manipulateur. Oui, mais il est le produit de cette évolution et il l'utilise pour aller vers un objectif pour lequel il n'est pas du tout spectateur, c'est-à-dire l'organisation des forces américaines pour contrer la montée de l'impérialisme chinois. Et ça, et tout est mis au service de cela. Mais j'en reviens, il est le produit de ces... Et son alliance avec Elon Musk est aussi révélatrice de ça. Que faites-vous dans votre analyse des réseaux sociaux ?
Pierre-Rose Ravalon, oui, parce que...
Et de la liberté d'expression, enfin de ce que je disais tout à l'heure sur l'utilisation, l'instrumentalisation de cette notion de liberté.
Oui, parce que l'idée, c'est que si on redonne la parole aux ressentis, etc., on oublie peut-être aussi que ces ressentis, ces prises de parole citoyennes, sont perturbées elles aussi, par des systèmes de représentation qui peuvent être dangereux.
Mais les réseaux sociaux jouent un rôle absolument central dans nos sociétés, mais ça n'est pas un rôle de production de connaissances. C'est pas un rôle d'échange d'informations, c'est un vaste lieu d'affirmation de position. C'est le lieu de l'idéologie aujourd'hui. L'idéologie, c'est le face-à-face, c'est le déferlement des idées reçues, des caricatures, et c'est la vie sociale, en quelque sorte, ramenée à des colères, ramenée à des indignations, ramenée à des illusions, ramenée à des illuminations. Et donc, effectivement, les rapports sociaux sont un lieu de contact et un lieu d'accélération de tous ces défauts, oui, je dirais, de la vie commune et de la vie collective. C'est un accélérateur des pathologies de l'échange social et de la parole. Alors, ils, oui, sont, ils là, sont là, il faut les combattre, mais les combattre comment ? Pas simplement les combattre en disant moi je vais avoir, ou mon parti, ou ce que je représente va avoir la bonne idéologie qui va faire taire tout le monde et on va dire voilà, nous sommes unifiés. Non, ce qu'il faut, c'est opposer du réel concret et patient aux idéologies, aux slogans. Il y a un monde des slogans et il y a un monde, je dirais, de la réalité vécue. Et beaucoup de gens s'enferment dans les slogans, vont dans l'idéologie parce qu'ils ont le sentiment qu'on perd pied pour parler de la réalité. Donc il faut se faire des champions de la réalité pour lutter contre les simplifications des réseaux sociaux.
Gilles.
Je voudrais vous interroger sur comment vous caractérisez la crise que nous vivons. On a parlé au début du débat avec Natacha de la crise politique et parlementaire. Vous avez défini ou redéfini les termes de la crise sociale. Vous avez parlé de la crise des partis. Dans quelle mesure vivons-nous aussi une crise des institutions et du régime ? Et est-ce que à elle seule, la réforme du mode de scrutin permet de la résoudre, ou est-ce que c'est quelque chose de plus profond et que on a des institutions qui n'ont pas été pensées pour un système tripolarisé comme celui que nous connaissons?
Pierre-Rosan Vallon.
Dans la crise des institutions, il y a ce qui provient de ce que on a appelé effectivement cette tripolisation, où donc il faut maintenant trouver d'autres moyens d'expression, et la proportionnelle semble, mais la proportionnelle à définir, parce qu'entre la proportionnelle nationale, départementale,
oui, quelle échelle,
il y a 100 proportionnelles, oui, hein, donc il faut bien la définir, et il y a beaucoup, ouais, de discussions à avoir sur ce sujet. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que ça n'est pas simplement la tripolisation, c'est-à-dire l'avènement Rassemblement National à 30%, qui change la donne, c'est aussi le fait qu'à gauche même, la France Insoumise n'a pas le rôle qui était celui du Parti Communiste avant, n'a pas la même fonction de légitimité sociale qu'il avait, à une dimension plus idéologique, une dimension plus liée aussi au destin d'une personne, et pas simplement d'un groupe. Donc certainement qu'il y a à réinventer une politique qui permette aujourd'hui de faire face à ce qui serait non pas simplement un face-à-face de deux groupes, droite et gauche, mais une société politique plus éclatée. Et cette société politique plus éclatée, eh bien, c'est la représentation proportionnelle qui doit la faire vivre. Mais pour qu'elle vive, ça n'est pas simplement l'élection proportionnelle qu'il faut. Pour la faire vivre, il faut aussi que derrière, il y ait une culture. Une culture politique adaptée à cela. Et cela, ça s'apprendra lentement, je pense, en France. Mais il ne faut pas tout attendre de cette réforme électorale. Il ne faut pas tout attendre de ce changement des institutions. Je pense que la démocratie, c'est aussi une culture commune, plus vaste, et c'est cette culture de la surveillance des institutions, cette culture de la représentation, cette culture de la délibération qu'il faut faire vivre en dehors des institutions. Je pense que la démocratie, bien sûr, c'est d'abord et avant tout un ensemble d'institutions qui assurent la gouvernance d'un pays. Mais c'est aussi une culture de la vie commune.
Combien de temps on met pour passer d'une culture, oui, à une autre ? Non, mais c'est un élément déterminant, oui, parce qu'on sait que la proportionnelle, ça rend obligatoire le compromis, mais qu'il faut pour ça avoir une culture du compromis. Et donc, une fois qu'on a la proportionnelle, combien de temps on met avant qu'on réussisse à nouer des compromis ?
Eh bien, ça n'est pas simplement la raison qui vous amène à changer de culture, c'est aussi la réalité. Et quand il y a si on veut gouverner, une obligation de passer des compromis.
Dernière toute petite question, je vous ai lu depuis longtemps, je vous écoute depuis longtemps, je vous sens pessimiste sur l'avenir de notre démocratie, est-ce que je me trompe ?
Interrogatif, interrogatif parce que je pense que ça n'est pas simplement les institutions elles-mêmes qui sont en cause. Ça n'est pas simplement, il ne faut pas simplement déverser sa bile sur un personnel politique qui serait pas à l'écoute, incompétent, etc. Il faut voir que pour sortir de cette crise démocratique, c'est aussi un réinvestissement citoyen plus général. Le 19e siècle a vu que pour faire vivre la démocratie, il fallait inventer des partis politiques, c'est-à-dire des moyens de canaliser la démocratie, des moyens de l'organiser. Eh bien, aujourd'hui, nous devons trouver des moyens différents, des moyens d'organiser la société civile et de la faire vivre démocratiquement.
Réinventer la démocratie. Merci beaucoup, Pierre-Rosan Vallon, pour vos propos très éclairants. J'imagine on pourra aussi lire, relire ou lire Les institutions invisibles. C'était paru en 2024 au Seuil et encore, bien sûr, disponible avant la version en poche. Merci Gilles et merci Natacha. Merci à l'équipe du Grand Face à Face, Mathilde Clatte à la préparation de l'émission, Yann Ozaman à la réalisation aujourd'hui et Loïs Moreau à la technique d'une émission à laquelle vous pouvez vous abonner en podcast sur l'appli Radio France. Quant à moi, je vous retrouve tout à l'heure à 18h pour l'émission En 6 dates clés. Tout à l'heure, le thème Palestine, anatomie d'une reconnaissance avec l'historien Thomas Méneux. Cette conversation, vous pouvez déjà l'écouter en podcast sur l'appli Radio France.